Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais beau, hein?
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
C'est une histoire d'eau, de roulement de R, de che, de petits mots, con ou putain, glissés comme une virgule ou un point en fin de phrase. C'est une histoire de langue plurielle, de langue qui chante, qui parle de nous, de notre histoire. C'est un rythme, comme un morceau de jazz entre partition écrite et improvisation. Ce sont des mots qui respirent une région, un festival de sens, qui se dégagent de chaque syllabe et qui nous rappellent qui nous sommes intrinsèquement. Oui, les accents dessinent une carte de France sonore, donnent du relief à nos phrases, du nord au sud, dans les territoires d'outre-mer, dans les pays francophones, chacun le sien, chacun ses mots. Une diversité linguistique qui conduit parfois à quelques incompréhensions. Si je dis que j'ai une montée de Boufaïs ou que je bade Tahar Rahim, je ne suis pas certaine que tout le monde me comprenne. Une incompréhension prétend à sourire. Mais ces différences conduisent parfois au sarcasme, à la moquerie, voire à la discrimination. Ça s'appelle de la glottophobie et c'est une réalité sociale. Mais à cet instant précis, en ce 3 août 2021 sur France Inter, j'ai décidé de faire chanter mes O et mes E sans aucune pression et j'attends avec impatience d'entendre vos accents.
Eva Rock sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'été comme jamais sur France Inter. Peut-être avez-vous entendu dans l'émission d'hier, qui était consacrée aux premières fois, que vous pouvez d'ailleurs réécouter en podcast, un léger accent dans ma voix, dans mes O notamment. Eh bien, nos trois invités du jour aiment les accents et j'en suis particulièrement heureuse. Bonjour Hortense Rénal.
Bonjour Eva.
Vous êtes diplômée de l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm en littérature, vous avez été professeure de lettres et vous êtes poétesse, comédienne, performeuse et originaire de l'Aveyron, il faut le préciser.
Tout à fait.
Avec nous en duplex de Quimper, grâce à nos confrères de Brésil, Philippe Blanchet. Bonjour Philippe Blanchet.
Bonjour à tous et à toutes.
Vous êtes sociolinguiste et créateur du mot glottophobie. Vous allez nous expliquer précisément de quoi il s'agit dans un instant. Et je précise, est-ce que vous pouvez nous redire bonjour Philippe?
Bonjour.
Que vous êtes né à Marseille et que votre accent sent le sud. Autre duplex, autre région de France, direction Pau et le studio de France Bleu Béarn. Bonjour Michel Feltin-Palas.
Bonjour.
Est-ce qu'on dit bien Palace d'ailleurs? Est-ce qu'on prononce le S,
oui,
à la fin de votre nom de
on
famille?
On dit Palace parce,
voilà,
que c'est un nom béarnais, même si mon père était parisien et que j'ai l'accent du coup de la capitale. Mais Palace est un nom béarnais et on prononce bien le S final.
Voilà, Feltin, Palace. Vous êtes journaliste à l'Express. Michel, vous avez publié l'an dernier « J'ai un accent et alors ?», un livre coécrit avec Jean-Michel Apathy. Et vous donc, vous venez de nous le dire, vous êtes mi-parisien et mi-béarnais. Je vais vous poser la même question à tous les trois pour débuter cette émission. Quel mot aimez-vous particulièrement, Hortense Rénal?
Alors, je vais choisir le mot botte, parce que les bottes de foin, les bottes de ferme, la couleur dorée qui hante mes paysages intérieurs, même quand je suis à Paris.
Et botte, parce que le O ne se prononce pas de la
bien
même
sûr
façon d'une région à l'autre. Philippe Blanchet, quel est votre mot préféré?
Eh bien, je vais vous dire pour sa poésie le mot pétugon. Une pétugon, c'est le nom qu'on donne en provençal au petit crochet pour tenir les volets contre la façade. Et je le trouve particulièrement savoureux.
Et Michel Feltin-Palas, votre mot ?
Diversité.
Ah oui.
Parce qu'à mes yeux, rien n'est plus triste que l'uniformité, y compris dans le domaine sonore.
Alors de mon côté, il y a deux mots qui m'enchantent. Pardon, je triche un peu. J'ai choisi stridulation, parce qu'en quatre syllabes, d'abord je suis dans le sud. Je sens la sève des pins parasols dans lequel se nichent les cigales et j'entends la voix déjà d'Ella Fitzgerald scatter avec les insectes. Et puis un peu comme vous, Hortense Rénal, j'aime le mot rose, parce qu'il est pluriel, parce qu'il contient des nuances, des odeurs et des sons différents. Et parce qu'il paraît que je le prononce pas rose, en fait, comme les Parisiens. Je sais pas, c'est les Parisiens qui disent ça. Philippe Blanchet, on pourrait se dire que cette histoire d'accent différent entre chaque région est un particularisme comme un autre, un élément de folklore. Or, vos travaux le prouvent, c'est un sujet à la fois historique, politique et social. Est-ce que vous pouvez, en quelques dates, nous expliquer comment sont nés les accents et comment, surtout, ils s'effacent peu à peu?
Oui, alors on va parler principalement des accents les plus fréquents, les plus connus en France, qui sont ce qu'on appelle les accents locaux, régionaux. En gros, ils sont nés de la façon suivante. Jusqu'au 19e siècle, en France, la grande majorité de la population parlait pas français, mais d'autres langues. Les langues qu'on appelle aujourd'hui régionales, mais qui pouvaient être nationales à une autre échelle à cette époque-là. Et puis, une politique d'uniformisation linguistique de la France a été mise en place pour créer une nation autour d'une langue commune, mais qui a été du coup transformée en langue unique, qui est le français. Ça a mis à peu près un siècle à être réalisé. Il a fallu attendre en gros la moitié du XXe siècle pour que la majorité de la population parle français et que les enfants commencent à être élevés en français dans les familles. Et évidemment, tous ces gens-là ont parlé français en le colorant de leur langue première, tout comme si vous apprenez l'anglais à l'école, vous apprenez l'anglais avec votre accent à vous. Et ils l'ont transmis à leurs enfants, qui l'ont transmis à leurs enfants, et se sont installés comme ça, ces prononciations régionales du français, qui sont colorées par la première langue, soit des personnes, soit plusieurs générations avant, des familles en question. Il faut juste pas oublier qu'il y a aussi des accents qui sont dus au fait que le français est parlé dans beaucoup de pays du monde, et que le même phénomène s'est produit
évidemment,
ailleurs.
Évidemment, bien sûr.
Et enfin, qu'il y a aussi des aspects sociaux, c'est-à-dire que de toute façon, on n'a jamais parlé une langue de la même façon selon qu'on est du monde rural, du monde ouvrier ou de la grande bourgeoisie.
On va aborder cette question également, mais en tout cas, dans ce que vous dites, on comprend que c'est une histoire extrêmement récente, en fait, en France, cette histoire de langue et d'uniformisation de la langue. Michel Feltin-Palas, vous évoquez régulièrement votre attachement à la terre de votre mère, la vallée d'Ousseau dans le Béarn, et quand vous en parlez, alors même que vous avez grandi à Paris, on mesure la valeur sentimentale qui vous lie à cette région. Au fond, l'accent, c'est quoi ? C'est aussi un affect ?
Oui, c'est plus qu'un affect, c'est une partie de l'identité. N'oubliez pas que dans langue maternelle, c'est la langue de la mère, donc c'est par la langue et par l'accent qu'un enfant découvre le monde, reçoit ses premières informations, exprime ses premières émotions, et dire à cet enfant, quand il arrive adolescent ou à l'âge adulte, que sa langue ou que son accent est ridicule, est une sous-langue, eh bien c'est non seulement critiquer sa langue, mais à travers la langue, c'est critiquer sa famille, sa culture, sa région, son identité profonde. Et c'est en cela que le sujet des accents est un sujet beaucoup plus sérieux que ne le croient ceux qui ont la chance de parler avec le bon accent, avec des guillemets, qui n'ont pas à souffrir de cette discrimination.
Hortense Reynal, d'ailleurs, comment ça se passe pour vous quand vous arrivez à Paris depuis votre Aveyron natal avec un accent ?
Alors, ça se passe très bien.
Ouais.
C'est vers la fin, parce que j'ai quitté Paris pour aller vivre du côté de la Méditerranée, où l'accent est très fort aussi, il n'est pas le mien, mais il est très fort. Et c'est plutôt vers la fin que je remarque, en fait, une discrimination que je nommerais comme diffuse. Elle n'est pas violente, elle n'est pas vraiment forte, mais elle est diffuse. On répète après, ou alors on a nécessité comme de replacer, j'allais dire géographiquement et socialement, ma position, voilà. Et donc on me demande avant même d'entrer en conversation, mais tu as un petit accent toi, non ? Donc voilà, et on se sent obligé de répondre, eh bien oui, c'est vrai, là, actuellement, dans le moment présent, je me situe à Paris, mais symboliquement, je me situe, donc pour ma part, en Aveyron.
Oui, vous écrivez dans un texte de présentation d'un travail photographique qui s'appelle Transfuge, vous écrivez « Le milieu d'origine est un espace géographique, alors dont on s'éloigne, par désir, par curiosité, par soif de connaissance et de nouveauté, mais c'est l'espace mental auquel on appartient toujours, c'est la matrice par laquelle on va aborder toutes les nouvelles choses, et donc cette matrice, elle passe par nos accents, c'est ça ?»
Tout à fait, on a comme une binarité d'espace, enfin moi je le vis comme ça, et vu que j'aborde le sujet de manière plus artistiquement, plus poétiquement, c'est ça, c'est cette double... Il ne faut pas oublier que c'est un petit exil. Hein. Il y a des gens, évidemment, qui vivent des exils bien plus grands, mais c'est comme un exil intérieur au sein même d'une unité qui est la France, une nation, mais un exil intérieur.
Alors, on a reçu beaucoup de messages dès hier soir sur le site de France Inter quand on a révélé le thème de cette émission, et notamment celui de Romain.
Je suis natif de la ville de Béziers. Je vis à Paris depuis quelques années. Et à chaque fois que je me présente à de nouvelles personnes et que je prononce la phrase « Je m'appelle Romain », toujours la même réaction. « Oh mon Dieu, mais j'adore ton accent !» Ah non, mais tout de suite, ça sent le soleil, ça sent la plage, la tomate mozza. J'adore, hein. Surtout garde-le, hein. J'adore. Amis parisiens, arrêtez, c'est gênant.
C'est gênant. Je vous vois rire, Hortense Reynal. Comment vous réagissez à ce témoignage de Romain ?
Eh bien, Romain, je suis avec toi.
C'est ça. Philippe Blanchet, on va évidemment évoquer cette discrimination par les accents. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous avez voulu mettre derrière le mot glottophobie ?
Oui, glottophobie est un terme qui est construit sur le modèle de xénophobie ou de homophobie, qui consiste donc à désigner une discrimination, phobie, hein, non pas au sens psychologique de la peur, mais au sens sociologique du rejet, au prétexte d'une langue, glotto, comme dans polyglotte, hein, qu'il s'agisse de gens qui se voient privés de l'accès à un certain nombre de ressources, de biens, de situations, qui se voient traités défavorablement parce qu'ils parlent une autre langue que la langue attendue, par exemple en France, une langue de l'immigration ou une langue dite régionale, ou que ça soit des gens qui parlent la langue attendue, mais d'une façon qui n'est pas acceptée non plus, par exemple avec un accent qui soit picard ch'timi de banlieue parisienne ou du Béarn et de l'Aveyron, pour faire honneur à nos autres invités.
Michel Feltin-Palas, est-ce qu'il est possible de savoir combien il y a d'accents en France et dans les pays francophones? Ou c'est une question à laquelle il est impossible de répondre?
Non, il est impossible d'y répondre, parce qu'il faudrait savoir à partir de quelle différence sonore vous estimez qu'il y a deux accents différents et qu'il y a autant de nuances. Il y a des nuances régionales, géographiques et des nuances sociales. Donc à mon avis, il est impossible de répondre à cette question.
Alors, on a reçu un message de notre confrère Benoît Lagan qui nous a écrit aussi hier soir quand il a su le sujet de l'émission, et il nous dit « J'ai commencé à la radio, je pensais ne jamais parler au micro avec mon accent toulousain. J'étais pas fort en gastronomie, pas fou de météorologie, pas dingue de rugby, et puis je n'ai rien lâché. Aujourd'hui, je suis plutôt fière de parler série avec mon accent du midi. » C'est tout ça, Philippe Blanchet, en fait, derrière l'accent, c'est toute une série de stéréotypes et d'images qu'on a, des sortes d'images d'Épinal sur chacun d'entre nous.
Oui, alors d'Épinal, quand ça ressemble à une image positive
hein,
comme celle que dont témoignait le Romain de tout à l'heure, mais qui en même temps est une forme de discrimination, de on vous pointe du doigt, ah vous êtes pas comme les autres, et on vous renvoie bien sûr que avoir un accent méridional c'est plutôt sympathique, mais ça veut dire que c'est pas sérieux, c'est les vacances, c'est comme il l'a dit et c'est très juste, hein, on vous renvoie au soleil, etc. Tout simplement parce que les Parisiens ne connaissent du midi que la période des vacances pendant les congés payés. Ils savent pas que dans le midi, il y a aussi des gens qui réfléchissent, qui disent des choses sérieuses ou qui tout simplement peuvent souffrir. Donc effectivement, il s'agit d'une stigmatisation qui peut aller jusqu'à la discrimination, c'est-à-dire au fait que on refuse à une personne un emploi, par exemple un emploi de journaliste dans l'audiovisuel, au prétexte de sa prononciation, comme si l'intérêt de ses propos passait après sa prononciation des voyelles ou des consonnes.
Hortense Rénal, est-ce qu'en tant qu'enseignante, votre premier métier, vous avez eu des remarques de la part à la fois de vos collègues enseignants ou même de vos élèves?
Des collègues, non. De mes élèves, oui. Mais honnêtement, ils l'ont accepté assez facilement. Donc, ça va.
Mais est-ce que vous entendez, quand on vous fait une remarque sur votre accent, est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de vous dire? Parce que, par exemple, on me dit, t'as entendu la façon dont tu prononces ce mot avec ce O. Mais moi, en fait, c'est comme si vous me parliez chinois. Je ne comprends rien. Je ne sais pas pourquoi on me reproche ma prononciation.
Exactement. Le plus frappant, c'est quand on va répéter sans faire d'autres remarques. Juste répéter.
Oui. Oui.
Alors là, on ne comprend pas, oui.
Quand vous demandez un plat sans sauce,
mais
par
encore,
exemple,
voilà.
On vous fait répéter. On va revenir sur toutes ces petites moqueries qui nous font parfois sourire, mais qui parfois sont discriminatoires et qui, évidemment, se regroupent derrière ce mot, Philippe Blanchet, de glottophobie. On va évoquer tout ça. N'hésitez pas à réagir, à nous faire part de vos témoignages. Pour cela, il y a le téléphone 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous envoyer un mail ou une note vocale via l'application de France Inter. Il suffit de cliquer sur le bouton « Réagir » sur la page de l'émission. L'été comme jamais, cela nous permettra d'entendre vos accents.
Discover who with a glare you ask where my
pop enchanteresse du collectif Michel, six jeunes musiciens et musiciennes de New York, qui dans ce titre, Fayot, raconte à quel point il est compliqué de grandir et de se construire en tant que métisse dans la société américaine actuelle.
L'été comme jamais. Eva Rock sur France Inter.
Un été comme jamais coloré ce matin grâce à nos accents, des intonations de voix qui font partie de notre identité et qui sont parfois raillées, on le disait depuis 9h07. Hortense Rénal, Michel Feltin-Palas et Philippe Blanchet, je vous propose d'ouvrir grand vos esgourdes, comme on dit dans le sud, vos oreilles. Notre réalisatrice Juliette Medevielle, originaire de Montpellier, a repéré différents accents dans des films. Au menu de ce mix, Les Tuches, La Vérité si je mens, Le Dîner de cons, Dick Henneck, Bienvenue chez les Ch'tis, L'Enquête Corse, Un éléphant ça trompe énormément et Les mots de Fernandel.
Bon, Cathy, les enfants, mamie,
hein?
J'ai quelque chose d'important à vous dire.
T'as gagné au loto?
Yalla!
Patrick!
Comme il est beau, il n'a pas changé. Jamais.
La vérité, c'est bon de vous voir.
Ça sonne, je vous mets sur haut-parleur. C'est à vous.
Je prends l'accent belge?
Non.
Amao, Claudia, l'appareil. Dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Je veux quitter cette ville. Je deviens fou, moi, ici. Quelle violence!
Oh, j'aurais pu vous tuer.
Non, mais c'est pas grave, ça va. Je vous ai reconnu à votre plaque et 13. Ici, c'est 59. Vous avez fait signe d'arrêter votre carrette, mais vous m'avez bien vu. Mais ça va, j'ai rien.
Votre mâchoire, vous êtes baissée, là?
Hein?
Vous avez mal quand vous parlez, là, non?
Quoi? Mais c'est quoi, ce bordel? Vous êtes qui?
On est des dissidents de Corsica Libre, notre mouvement à deux jours.
Et moi, c'est Tuche, avec un T, comme T, là.
Bah, tapis, calmez-vous, messieurs, le supporteur d'une bonne nouvelle, pour monsieur...
Les... Toi, le fils, sous de ta gueule.
Parle pas sur ce ton, hein, parce que je suis encore ta propre mère. Et tu pourras recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais.
Arrête.
T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah où t'es que t'es? Où c'est que t'es? T'es pas là? T'es pas là où c'est que t'es là? T'es là? T'es là ou t'es pas là avec un T? Comme Tuche? Comme t'es là? Tuche, t'es là?
Je suis désolé, je comprends rien de ce que vous dites.
Non, je ne rougis pas de mon si bel accent. Je veux qu'il soit sonore et clair, retentissant, et m'en aller tout droit à l'humeur toujours pareille, en portant mon accent sur le coin de l'oreille.
Michel Feltin-Palas, on sourit avec Hortense dans le studio en écoutant ce mix de Juliette Medevielle. Mais ces extraits sont quand même révélateurs parce que derrière l'accent se cachent des préjugés, des moqueries que le cinéma exploite. Et plus sérieusement, est-ce qu'on imagine la comédie française dirigée par un comédien ou une comédienne ayant un accent à la Rému?
Alors non, on ne l'imagine pas, mais vous avez raison de dire que derrière les sourires que peuvent provoquer ces extraits, la situation est plus grave que cela, parce que derrière ça, on a des représentations négatives. La plupart des personnages que l'on a entendus sont peut-être sympathiques, mais un peu benêts, pas très malins, et non des fonctions sociales subalternes. Or, c'est exactement, si vous voulez, la même chose qu'il se passait avec les rôles des personnages d'origine immigrée dans les années 80-90. Quand vous aviez un beurre qui apparaissait à l'écran, c'était un délinquant, et quand c'était une beurette, elle était femme de ménage. Et donc, ça renvoyait à un univers social des réalisateurs français de l'époque qui était très négatif sur l'immigration. Aujourd'hui, et c'est très bien, vous avez des acteurs d'origine immigrée qui sont médecins ou policiers. Bien, malheureusement, pour les accents, rien n'a changé. Et les rôles privilégiés, les intellectuels, les personnages de premier plan intelligents et brillants, ont l'accent standard. Et quand un accent apparaît à l'écran, c'est systématiquement ou quasi systématiquement pour des choses négatives. Je me permets une petite pique pour France Inter, parce que vous diffusez en ce moment une série sur Colette.
Oui.
Colette avait un accent bourguignon extrêmement marqué,
que l'on
entend d'ailleurs parfois quand on entend
sa
vraie voix. Mais quand on cite des livres de Colette, c'est une voix tout à fait standard qui s'exprime, comme s'il était impossible de représenter une grande écrivaine avec un accent qui ne soit pas l'accent standard parisien. Et ça joue dans la perpétuation des préjugés négatifs qui s'exercent à l'encontre des accents régionaux.
Alors avec nous en ligne, un auditeur, comédien et écrivain. Bonjour Hicham Nazal.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour Hicham. Quand vous avez découvert le thème de l'émission hier, vous nous avez tout de suite appelé. Pourquoi ?
Je vous ai tout de suite appelé, non seulement parce que je suis France Inter, mais parce que ça m'a beaucoup parlé. Alors moi, pour rebondir sur ce que disait votre invité, moi j'ai cumulé les handicaps quand je suis arrivé à Paris. Non seulement j'étais issu de la diversité, comme on dit aujourd'hui, de manière polie. Mes parents sont issus de l'immigration. Donc en tant que jeune apprenti comédien, j'avais déjà cette espèce de barrière physique, hein, vous voyez, de refuser de jouer les beurres de service. Et en plus, j'avais l'accent du sud-ouest, parce que je suis né à Bordeaux. Donc quand je suis arrivé prendre des cours de théâtre, je me souviens de mes profs qui m'ont dit « Écoute, Hicham, déjà ça va être compliqué pour que tu sois comédien, mais si en plus t'as un accent, comme vous le disiez tout à l'heure, chantant,
oui.
Ça va être encore plus compliqué, on va te mettre dans des rôles de cagole, quoi. Vous voyez, des rôles de personnages qui fait rire, quoi. »
Et comment vous avez réagi? Comment vous avez fait pour ne pas avoir ce rôle de cagole, comme vous dites?
Bah, ce que j'ai fait, c'est que... C'est très juste ce que disait Michel Feltin-Palas, il parlait de diversité, et moi, malheureusement, c'est à une époque, j'ai commencé il y a 20 ans déjà mon métier, et c'était à une époque où les professeurs nous exhortaient vraiment à perdre l'accent pour pouvoir travailler. On m'a clairement dit, si tu veux travailler et avoir des rôles dans lesquels tu vas être crédible, il faut que tu perdes ton accent. Et ce qui est très drôle maintenant, c'est quand je vais voir ma famille qui est toujours à Bordeaux, ils se moquent de moi parce qu'il paraît que j'ai
l'accent
parisien.
Un peu pointu, comme on dit.
Un peu pointu, ouais. Mais ce qui est très juste aussi, c'est ce vocable aussi. C'est-à-dire, moi, j'avais des mots à Paris qui faisaient sauter les gens. Par exemple, on disait, par exemple, l'accent de Bordeaux, on disait ça daille les parigots.
Oui.
Ça fait chier les Parisiens. Et je disais aussi beaucoup gavé.
Gavé, ah oui.
Gavé fier d'être bordelais. Je suis gavé fier, c'est-à-dire je suis très fier d'être bordelais. Et je disais aussi un truc, je disais ça me donne la quinte.
Ça vous donne la quoi, la quinte?
La quinte, ça veut dire ça m'énerve. Alors les chocolatines, je n'en parle pas. Et en plus, j'allais au supermarché, je demandais une poche.
Ah bah oui, c'est les mots qui marquent une région. Effectivement, quand vous utilisez un mot, on sait d'où vous venez et ça fait partie de notre identité. Mais il faut pas rire, enfin c'est un peu idiot de rire. Chacun ses mots.
Et aujourd'hui, ouais. Je serais plutôt pour militer pour que chacun garde sa diversité, parce que sa diversité est ce qui fait son identité.
Exactement. Merci beaucoup Hicham Nazal de nous avoir appelé. Merci d'avoir témoigné. On a reçu énormément de messages. Romain par exemple qui nous dit: en arrivant à Paris, j'ai fait tellement d'efforts pour gommer, limer, effacer mon accent breton. Mon accent pomme de terre m'avait un jour dit un prof de journalisme. Voilà, c'est la violence des mots parfois derrière tout ça. Alors on a eu beaucoup de réactions qui nous disent: vous parlez beaucoup des accents du Sud, c'est vrai, mais on a aussi des auditeurs qui viennent du nord de la France. Je pense à François, il dit: je suis né en Basse-Normandie et j'ai vécu 10 ans dans les Hautes-Pyrénées. À mon arrivée dans cette région, j'ai subi de très nombreuses moqueries par rapport à mon accent normand. C'était pas méchant de la part des gens, mais à force de moqueries, je l'ai mal vécu. Et Quentin, il nous dit son mot préféré, c'est narreux. C'est utilisé en Lorraine. Il adore ce mot qui n'a pas d'équivalent en français standard. Être narreux, c'est être dégoûté à l'idée de devoir boire dans le verre de quelqu'un ou de manger avec la cuillère de quelqu'un d'autre. En période de pandémie, je comprends que ça vous embête. Il y a au moins 4 séries actuellement diffusées sur TF1 et France Télévisions qui sont tournées dans sud de la France, et à quelques exceptions près, mais alors très très rares, aucun personnage n'a un accent. Romain, notre auditeur qu'on a entendu en début d'émission, nous dit avec humour: tu fermes les yeux et t'as l'impression d'être dans un brunch dans le 4e arrondissement de Paris. Philippe Blanchet, comment on peut expliquer cela? Ça renvoie un peu à ce que disait Michel Feltin-Palas. C'est vrai que même là-dessus, on n'a pas cet effort de représentativité des accents.
Oui, absolument. Parce que la connotation dominante des prononciations non parisiennes et non bourgeoises du français, c'est que c'est des mauvaises prononciations qui seraient ridicules et qu'on pourrait objecter aux gens. Je vais ajouter deux petites choses à ça, puisqu'on parle de l'image que donne notamment le cinéma ou la télévision des accents. Si vous prenez un film comme la version de Claude Berry de Manon des Sources de Pagnol...
Catastrophique.
Catastrophique pour tous les Provençaux et pour ceux qui connaissent la région. Et il y a deux phénomènes linguistiques qui le montrent bien. D'abord, dans le film de Pagnol, on entend parler provençal. La langue a complètement disparu de la version parisianisée de Claude Berry. Mais surtout, dans sa version, les gens qui ont l'accent du Midi sont tous des mauvais. Et les gens bien, les gentils, les bons parlent français pointu avec l'accent parisien. Ça, c'est la première chose que je voulais ajouter. L'autre chose, c'est vrai, on parle beaucoup des accents, en gros, du grand tiers sud de la France, parce que c'est les plus connus, mais aussi parce que ça représente la plus grosse quantité de personnes qui ont un accent remarqué en français. Mais il faut pas oublier, bien sûr, effectivement, Les prononciations, par exemple, de la Bretagne où je suis en ce moment, où dans la zone de langue bretonne, les gens ont un très joli prononcé du français, très chantant, très particulier. Et il est peu connu et c'est bien dommage. Et même chose pour les accents dits du Nord, en gros Picard, Ch'timi, etc., qui font l'objet d'images extrêmement négatives. Parce qu'on disait tout à l'heure, bon, quand on se moque des gens du Midi, c'est toujours avec une image un peu positive. Et c'est dommage parce que ça cache quelque chose de négatif derrière. Mais il y a pire que ça, c'est que quand on se moque des gens du Nord, on prend même pas de gants. On dit des choses horribles aux gens du genre...
Oui.
Comment tu parles, c'est moche, c'est grossier, c'est ridicule. Votre auditeur breton disait qu'on lui reprochait d'avoir l'accent patate. Enfin, c'est épouvantable de dire des choses comme ça aux gens. Toutes les personnes qui ont pris la parole ont bien raison de dire que c'est la même chose que de dire à quelqu'un que la couleur de sa peau, la forme de ses yeux ou sa façon de vivre est insupportable et qu'on la lui objecte. C'est vraiment un mépris insupportable des personnes.
Oui, alors je rebondis sur ce mot de mépris. Hortense Rénal, est-ce que derrière ces moqueries, il n'y a pas également un mépris de classe?
Oui, c'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un, par exemple moi en tant que poétesse performeuse, je fais un podcast sur Spotify qui s'appelle Poésie à voix haute, et on a pu me dire, mais tu sais que c'est pas comme ça qu'on dit, c'est haute. Et là on se positionne comme le sachant qui sait comment on dit, comme si, donc voilà, la norme est la transgression de la norme. Or, la norme vient aussi, c'est aussi une affaire de pouvoir.
Bien sûr.
Dire je détiens la norme, c'est dire j'ai le pouvoir et toi, tu es en dessous. Donc, je vais t'expliquer comment. Donc voilà, il y a quand même une condescendance.
Et alors, comment vous avez fait dans le cadre du podcast, par exemple? Est-ce que vous avez continué à prononcer haute ou vous avez un peu corrigé?
Ah oui, j'ai fait un bon jingle où on entend bien plusieurs fois d'affilée. Voilà, poésie à voix haute.
Est-ce que ça vous est arrivé quand même de gommer votre accent? Volontairement.
Oui. Comme le témoignage qu'on vient d'écouter, c'est sûr que dans certaines, en fait, je me suis rendu compte, donc c'est toujours a posteriori, hein, que dans certaines situations plus sérieuses, donc comme on disait, voilà, le côté rigolard, bon, ben là, je vais même. Et c'est là où c'est quand même aussi, vicieux, c'est que on va aussi accentuer certaines situations, on va aussi accentuer notre accent, et donc jouer le jeu. De s'approprier, en fait, intérioriser le stigmate. Voilà.
Complètement. Alors, je reconnais, alors, comme vous, Hortense, que je l'ai fait, cet effet de gommage. J'en ai pris conscience, en fait, en préparant l'émission. J'ai déjà enlevé des mots de certaines de mes chroniques parce qu'il y avait un O que je craignais de mal prononcer et que je craignais surtout encore une remarque. Et voilà. Et donc, c'est des petits gestes comme ça au quotidien qui prouvent que, quand même, l'accent peut être un peu discriminatoire. J'aimerais vous faire écouter un extrait d'une série pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Sortie l'an dernier, elle est toujours disponible sur le site d'Arte. Elle s'appelle Tu préfères, 10 épisodes de 8 minutes où on suit les aventures de deux filles et de deux garçons de 16 ans qui grandissent dans un quartier populaire de Paris. Leurs joutes verbales sont rythmées par un jeu, Tu préfères.
Aimez-vous alors les gars? Par exemple, vous préférez être riche mais jamais connaître l'amour ou connaître l'amour et être pauvre?
Moi c'est être riche, je m'en bats les couilles de l'amour.
Si tu l'aimes vraiment, on s'en fout de l'argent frère, on vit d'amour et d'eau fraîche.
Hein? Qui? Tu me racontes là?
Qui s'en fout de l'argent? Mais qui s'en fout de l'argent? Dis-moi!
Moi, si j'aime une personne, si je suis amoureuse d'une personne, j'en ai rien
c'est
à foutre de l'argent.
Mais c'est pour ça, toi, t'es une meuf, toi, c'est pour ça.
C'est parce que vous avez jamais connu l'amour que vous dites.
Le vrai amour. Le genre d'amour où t'es même prêt à laisser tes potes tellement c'est fort, tu vois.
Genre, toi, tu serais capable de plus me voir pour un gars?
Bah, je sais pas, hein. Enfin.
Ah ouais. Tranquille.
Philippe Blanchet, sans aucune stigmatisation de ma part, est-ce qu'on peut parler d'un accent de banlieue?
Alors, pas d'un accent, mais de plusieurs accents de banlieue, oui, bien sûr, selon les banlieues de quelle ville, dans quel endroit du monde où on parle français, il y a des prononciations qui sont à la fois marquées localement, mais aussi marquées socialement, puisque, bien sûr, la langue varie aussi selon les milieux sociaux. D'ailleurs, Hortense le disait juste avant, et elle a tout à fait raison, le fait de sélectionner une prononciation comme norme, c'est aussi une façon pour une certaine classe sociale, en l'occurrence la grande bourgeoisie parisienne qui a pris le pouvoir à la place de l'aristocratie au moment de la Révolution française, c'est une façon pour elle d'imposer sa façon d'être, de parler comme un modèle, comme une norme, ce qui lui permet de filtrer l'accès au pouvoir, bien sûr. Parce que vous imaginez, si d'un seul coup tous les gens qui parlent français de toutes les façons peuvent exercer toutes les positions, y compris les positions de prestige, ça veut dire qu'il va falloir les partager.
Et oui.
Tandis que tant que vous leur dites, eh ben écoutez, il y a que ceux qui parlent comme nous qui y ont accès, on a de grandes chances de conserver l'accès à ces ressources et à ce prestige.
Alors, il m'était inconcevable de faire cette émission sans une chanson avec un accent. J'aurais pu choisir Petite Marie de Francis Cabrel. Ce titre lui a valu une mémorable fâcherie avec sa maison de disques qui lui avait demandé d'effacer son accent. Mais avec l'équipe, nous avons choisi Claude Nougaro, Danser sur moi.
Dansez sur moi, dansez sur moi, le soir de vos fiançailles. Dansez dessus mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Embrassez-vous, enlacez-vous, ma voix vous montre la voie lactée, la voie clarté où les pas ne pèsent pas. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, sur moi. Dansez sur moi qui tourne comme un astre. Étreignez-vous pour que vos cœurs s'encastrent. Tel un tapis, tapis volant, je me tapis sous vos pieds. C'est pour vous tous que sur mes doigts la nuit je compte mes pieds. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Hé hé hé, oh mais, ça y est. Dansez sur moi le soir de mes funérailles. Que la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille. Un chant de cygne s'est éteint, mais un autre a cassé l'œuf. Sous un saphir, en vrai saphir, miroir de mon sillon neuf. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi.
La poésie de Claude Nougaro sur France Inter, ça fait tellement de bien. Nous évoquons ses accents avec le journaliste Michel Feltin-Palas, le sociolinguiste Philippe Blanchet, la poétesse et comédienne Hortense Reynal. On vient de parler de glottophobie, de ces discriminations dont sont victimes les personnes ayant de l'accent. Mais l'accent, c'est avant tout du rythme, de la vie. Le chanteur et musicien André Mainviel réalise depuis plusieurs années une collecte de ses intonations. Il a réalisé sur son site andremainviel.com une carte de France de ses accents. J'ai cliqué sur la région du Var. Et la voix de Daniel Herrero a enchanté mes oreilles.
Moi, je suis de ceux qui parlent aujourd'hui une langue pour laquelle j'ai de l'estime et de l'amour, qui est la langue de France. Mais quand même, cette langue-là a marché, a quelque part même dominé et a fini par, non pas anéantir, ça veut dire réduire au néant, sûrement pas. Ma langue est vivante. Il reste que celle qui était la mienne, que je dirais occitane, celle qui était celle de mes anciens, elle pousse encore dans ma bouche et dans mes mots, elle sourd. Elle sourd.
Yes, yes.
Elle sourd. Tu vois, elle est une source. Voilà. Bon, après, moi, je parle le français, hein. Mais tu comprends bien que nous portons quelque chose à travers nos mots et c'est quelque chose de fait. C'est l'âme de nos ancêtres.
Hortense Renel, on disait que vous avez été professeure, enseignante de français, de lettres. On a eu un autre message de Valérie. Elle est professeure de français et elle dit « Je change d'accent dans mes cours, naturellement, parce que j'adore ça. Et je pense réveiller l'écoute des élèves parfois. » Et elle précise « Ma mère est de Sète, mon père de Saint-Étienne. » Deux accents marqués. Merci infiniment pour tous les messages qu'on reçoit. Je pourrais jamais tous vous lire, tellement il y en a. Hortense Renel, vous avez publié un recueil de poèmes qui s'appelle « Ruralité » et un de vos textes m'a particulièrement émue. Est-ce que vous accepteriez de le lire avec l'accent, évidemment ?
Avec plaisir. Et je vais introduire la poésie avec de la poésie, avec le poème de Miguel Zamacoïs qu'on a entendu dans la voix de Fernandel tout à l'heure, qui dit « Non, je ne rougis pas de mon fidèle accent, je veux qu'il soit clair, sonore et retentissant. » Alors allons-y. Je me souviens de l'oubli, je me souviens d'un passé tel qu'il a été, oublié un accent, fabulé, qui n'arrive plus à fabuler avec les hommes, avec les humains, finir par être en vacances chez soi. Quand, à un moment dans la vie, tout se décale, forcément ça se décale, ce refus intérieur pousser sa vie. Et, alors, tout est à refaire, couper l'épine, couper le « il y a longtemps » de tout ça, mais que faire de la brume, des débris sonores du lointain, du bétail, de ce qui inspire chaque parcelle de ma poésie, de ce qu'on arrache à l'existence, ça n'existera plus, qu'il dit. Des villages sur un plateau ondulé, du Bartas et du Lietch, de Miladiou et de Macarel, de celle qui dit qu'elle a tombé quelque chose, de celui qui dit que ça laisse pente, de l'odeur des châtaignes grillées dans la machine du grand-père en plein froid d'hiver, de sa dernière tarte aux pommes, volviuri al pais, como que volviuri al pais.
Merci beaucoup Hortense Renel. Est-ce que vous êtes émue quand vous lisez un texte à voix haute comme ça, qui parle de vous en plus ?
Toujours, oui.
Ouais. Et vous avez tous les sens qui sont mis à contribution. On sent la tarte aux pommes et les châtaignes qui grillent, c'est ça ?
Exactement, d'autant plus qu'il reste quelques grains de paille.
Ah oui, je le constate effectivement, voilà. Avec vous.
Parce que j'ai fait une performance avec ça au Festival des Voix Vives de Sète, Festival de Poésie, voilà, où j'ai pu parler de mon recueil Ruralité.
Alors on était avec vous en Aveyron, je vous propose d'aller en Corse avec une auditrice qui s'appelle Janine. Bonjour Janine.
Bonjour tout le monde. Très passionnant.
Merci beaucoup Janine, alors vous nous appelez de Corse, j'imagine, ou en tout cas vous avez l'accent corse, si je ne me trompe pas.
Mais pas du tout, pas c'est du l'accent tout. Créole.
Ah, c'est l'accent créole, excusez-moi, je ne l'avais pas encore entendu, pardon.
Mais oui, je suis martiniquaise, et puis m'emmaillée, et puis en Corse.
D'accord.
Moi, je fais contre Napoléon, et puis Joséphine.
Et alors, comment vous vivez votre accent en Corse ?
Mais c'est-à-dire que quand je parle français, sauf le fait d'occulter les R suivant les personnes, c'est la seule chose, si vous voulez, qui fait qu'on me fait une remarque. Mais on nous se moque tout le temps de nous parce que nous enlevons les R quand nous parlons.
Oui.
Par exemple, on dit « Maledi ri ». On le dit en créole, moins les dix riz. Mais si je dis j'avais du riz, on dit j'ai oublié le R. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le fait d'occulter le R ne vient pas de façon intrinsèque de nous. C'est un mimétisme qui vient de la part des notables français et des colons au temps de l'esclavage. On entendait parler, les esclaves entendaient parler les maîtres. Et donc, il y a une espèce de mimétisme. Donc, ils copiaient pour pouvoir parler. Déjà, ils ont dû créer une langue, parce que le créole, c'est une langue économique, hein, puisque c'est différent.
Bien sûr.
Donc, notamment les Angevins nous ont donné cette... Moi, je pense que c'est très joli, pourtant, qui disent, par exemple, au lieu de dire promener, ils disaient poumener.
Eh oui.
Ou alors, franc-maçon, ils disaient flamaçon. Donc, ce qui fait que nous avons ça et qu'on nous imite en faisant une espèce de doudouisme. Et je signale, parce que je vais piquer un peu au passage, que nous avons eu le Goncourt avec un ouvrage, n'est-ce pas, dans lequel le créole prédomine pour la plupart. Donc, et je crois que Napoléon a été séduit par l'accent de Joséphine.
Et vous n'avez pas du tout pris l'accent corse, alors, Janine ?
Mais pas du tout. Mais pourquoi ? Mais non.
Non, mais vous savez, par mimétisme, justement, parfois, on prend
mais
un accent.
Mais non, moi, trop fière qu'il manque à parler créole, parce que créole n'y plus dit 13 000 millions de monde qui a parlé créole.
Philippe Blanc, merci beaucoup Janine de nous avoir appelé. C'était un bonheur de vous entendre.
Mais oui, et je vous souhaite plein de bonnes choses et puis continuez comme ça parce que vous m'accompagnez 4 4h du matin, j'ai les oreillettes pour ne pas troubler tout le monde et c'est vraiment extraordinaire, France Inter. Vous méritez votre nom.
Merci beaucoup.
Bonne chose et bonne route.
On vous embrasse. Merci infiniment, Janine Philippe Blanchet. Vous confirmez ce que vient de nous raconter Janine, cet effacement et ce mimétisme aussi qui font que les accents sont comme ça aujourd'hui?
Alors, je sais pas expliquer, parce que j'en suis pas spécialiste, la naissance de la prononciation du créole, du R en créole dans les Antilles, et la façon dont il a été transmis ensuite en français, mais effectivement, nos prononciations, d'ailleurs nos langues, nous les avons acquises par mimétisme.
Eh oui.
On apprend les langues en écoutant les gens parler autour de nous et en parlant comme eux, et c'est vrai que quand on vit dans une nouvelle société, quand on est dans un nouvel environnement, si on y vit dans la durée et qu'on noue des relations intenses avec les gens, évidemment, on va se rapprocher de leur façon de parler. Je trouve que c'est une très bonne chose d'apprendre la langue des gens avec qui on vit, et aussi d'apprendre à parler avec les mots et les prononciations des gens avec qui on vit. C'est pour ça que quand un méridional comme moi va vivre dans une autre région, en l'occurrence la Bretagne, au bout de quelques décennies, ma prononciation est beaucoup moins marquée méridionale et je suis même capable d'employer dans mon français ordinaire des expressions que j'ai apprises ici en Bretagne. Et ça veut bien dire que avoir un accent ou parler une langue qui ne serait pas nationale, c'est pas un enfermement du tout, c'est une façon, une des facettes de l'humanité, mais on est toujours au contact des autres et tout se transforme au contact des autres. Simplement, il faudrait que ça aille dans tous les sens et qu'il n'y ait pas ceux qui sont au sommet qui imposent leur façon de parler, qui refusent celle des autres, qui refusent d'apprendre et même d'entendre celle des autres, par exemple en la chassant de la télévision, de la radio, etc. J'ai entendu hier à la télévision, aux informations, des Martiniquais ou Guadeloupéens, hein, des Antillais en tout cas, qui étaient interviewés, qui parlaient français, qui parlaient pas créole, à cause de la crise du Covid, ils étaient sous-titrés en français, alors qu'ils parlaient français. Je trouve ça insultant, et c'est une façon d'empêcher les gens de se familiariser à ces diversités de la langue, et donc à continuer à empêcher l'accueil, l'hospitalité pour ces façons de parler. C'est vrai, et c'est très bien que vous ayez fait parler cette auditrice, qu'il faut jamais oublier les gens des départements, régions et territoires d'outre-mer.
Tout à fait. Michel Feltin-Palas, moi c'est ça dont j'ai envie qu'on retienne aussi de cette émission ce matin, que ces accents, cette langue, ces mots, ces verbes, c'est aussi une poésie du quotidien.
Mais la diversité est une richesse. Il est incroyable que la France, qui défend l'exception culturelle pour sa culture et la raison de le faire, supprime la diversité interne qui est la nôtre. Nous avons une des richesses linguistiques les plus grandes d'Europe, peut-être la plus grande d'Europe. Et que fait la France? Elle passe son temps à supprimer les langues régionales depuis des siècles. Philippe Blanchet le disait, et vous avez vu l'actualité récente avec la censure de la loi Molac par le Conseil constitutionnel. Mais le comble de la centralisation linguistique, c'est que non seulement il faut aujourd'hui que tout le monde parle français, mais encore faudrait-il que tout le monde parle français avec le même accent.
Oui. Mmh.
C'est incroyable. Et quel est cet accent? C'est l'accent non pas de Paris, mais l'accent de la bourgeoisie parisienne. Donc c'est un système de valeurs qui est le contraire de la République. C'est un système de privilèges. C'est tout à fait aberrant. Et il y a là un impensé, si vous voulez, français. On se bat contre beaucoup de discrimination et on a raison. Mais la discrimination par l'accent ou par la langue, on ne lutte pas contre cette discrimination. Au contraire, on l'entretient et ça pose un vrai problème qui est contraire aux valeurs de la République, parce que c'est le contraire de l'égalité.
Alors avant de se dire ciao, pourriez-vous me dire tous les trois un mot que vous aimez particulièrement dans votre langue régionale, en nous en donnant évidemment la signification? Michel Feltin-Palas, vous commencez?
Je vais dire Adichat, qui veut dire à la fois bonjour et au revoir. Quand on vous voit quelqu'un, quand il y a plusieurs personnes, Adichat, ça veut dire Adi ou Siat, soyez, adieu.
Et Philippe Blanchet, pardon.
Alors je voulais donner en début d'émission, par un raccourci, c'est effectivement le mot pétugue en provençal, mais une dernière petite prise de parole. Il y a en ce moment un projet de loi qui est en cours d'examen au Parlement pour ajouter la notion des accents dans la loi qui interdit les discriminations. Oui. Cette loi est portée par Monsieur Euzet, député. Elle a été votée très largement à l'Assemblée nationale et nous nous désespérons de voir que le Sénat ne l'inscrit pas à son ordre du jour pour la confirmer. Nous aimerions bien que ce processus législatif, pour parler de démocratie et d'égalité comme le faisait Michel Feltin-Palas, que ce processus arrive à son terme.
Le message est passé. Est-ce que vous voulez nous dire quand même un mot dans votre langue régionale que vous aimez, en plus du premier?
Vous va diguer les toutes cas, la parole au pétugan.
Hortense Rénal. Hortense Rénal, le mot que vous aimez dans votre langue régionale.
Moi, il est quand même assez transparent, mais je trouve la sonorité magnifique. C'est le país qui a donné aussi les mots des paysans, qui sont les habitants du pays.
Je recompte encore sur les doigts. J'ai trop travaillé, tata. Tu me diras si j'ai le droit. Je veux rigoler, tata. Avec ces histoires, on peut pas. Tu m'as fait douter, tata. Ça fait peur chaque fois qu'on se voit. On s'est embrouillé, cassé les objets. J'ai tout mélangé. T'as les yeux brouillés.
Johan Papa Constantino, il est marseillais d'origine grecque et il chante Tata sur France Inter. Merci infiniment à nos invités, merci infiniment Philippe Blanchet de nous avoir éclairé sur ce sujet depuis les studios de France Bleu Brésil. Je conseille la lecture de deux de vos ouvrages, Je n'ai plus osé ouvrir la bouche et Discrimination, combattre la glottophobie, deux livres édités chez Lambert Lucas. Michel Feltin-Palas, votre livre J'ai un accent et alors est publié chez Michel Lafon. Vous étiez en direct de Pau, chez nos confrères de France Bleu Béarn que je remercie infiniment. Et merci Hortense Rénal, vous étiez à mes côtés et j'en étais ravie. Votre recueil de poèmes Ruralité est publié aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune. Merci à vous trois. Pour prolonger ce sujet, je vous offre ma bulle d'oxygène, mon coup de cœur pour des pièces de théâtre dont les textes sont édités et signé Simon Abkarian. Le comédien dramaturge d'origine arménienne offre une trilogie en bord de Méditerranée où les accents du Sud rythment chaque phrase. La dernière pièce, le dernier jour du jeûne, est disponible gratuitement sur France.tv, une saga familiale proche d'une tragédie grecque, dramatique et drôle, avec notamment Ariane Ascaride. Un grand merci à toute l'équipe de l'été comme jamais, Juliette Medevielle à la réalisation, Benjamin Troncin à la technique, Margot Page, Anna Massardier et Marie-Aubert à la préparation. La programmation musicale est signée Muriel Pérez. Demain, place à notre imaginaire. Et si nous dessinions la ville du futur, la nature peut-elle inspirer les architectes? Et vous, à quoi rêvez-vous?